au 99.1 88.9 CFNJ. C'est Lanaudière PM, votre magazine d'actualité de fin de journée. Voici Michel Arnois.
Tout un menu aujourd'hui pour vous. Fin du conflit du côté des CPE. Les travailleuses des 400 centres acceptent dans une proportion de 58%. Patricia Rivet, présidente du Conseil central CSN de Lanaudière, est avec nous. On parle aussi à la porte-parole régionale de la Sûreté du Québec, Héloïse Cossette. Sylvain Benoît d'équipe Repentigny nous dresse le portrait de son équipe. On parle au chef Sibi Flamand. Il y aura Pierre Paquette et Gosse Guy Dupuis de la pépinière Montcalm à Saint-Jacques. Mesdames, messieurs, bonne émission.
Lanaudière PM, relations de travail.
Bon lundi, mesdames, messieurs. Eh bien oui, la semaine commence sur des chapeaux de roue avec cette signature d'entente aujourd'hui. Non pas, c'est une entente de principe, finalement. Patricia Rivet, bienvenue à nos studios.
Merci de l'invitation.
Contente de vous recevoir.
Bien, moi aussi, très contente.
En plus, pour une, bon, disons, moi je vais dire une bonne nouvelle, mais vous allez me confirmer si oui ou non c'en est une. On a conclu une entente de principe avec le gouvernement. Parlez-moi un peu, vous avez voté, vous, Joliette, là, votre groupe.
Oui, tout à fait. Mais en fait, dans toutes les CPE du Québec, ça a été voté. 58% là, ont voté en faveur de l'entente de principe au niveau national.
Chez vous, à Joliette?
63% qui a été adopté dans notre région. Donc, l'entente de principe est adoptée.
Vous êtes content?
Bien, mitigé. C'est sûr que 58%, ça prouve qu'il y a une partie des travailleuses qui ne l'étaient pas. Moi, je pense que notre gouvernement là est insensible aux préoccupations des travailleuses. Les travailleuses en CPE, ils se battaient pour des bonnes conditions de travail, mais ils se battaient surtout pour la survie de notre joyau québécois, les CPE, les centres de petite enfance. Là, on voit que le gouvernement est pas tant préoccupé par ça. Il y avait beaucoup de demandes de recul qu'on a réussi à... Tu sais, ils ont fait quand même plusieurs jours de grève. Il y a eu des gains qu'on a réussi à faire au niveau des
Qu'est-ce
augmentations.
Qu'est-ce que vous avez gagné, oui?
Ben, en fait, les augmentations salariales, on a réussi à voir ce qu'il y a eu dans le secteur public de 17,4 à 19,4. On a réussi à augmenter l'échelon 1 des éducatrices, mais on a surtout réussi à combattre des demandes de recul qu'il y avait au niveau du gouvernement qu'on aurait eu encore un exode des travailleuses et travailleurs en CPE qui se seraient en allés vers le secteur public.
Du début à la fin, là, ça a pris combien de temps ces négociations-là?
Bien, regardez, là, ça fait près de 2 ans qu'ils n'ont pas de contrat de travail. C'est environ deux ans de travail, là, pas de négociation intensive, mais quand même, là, ça s'étale sur presque 2 ans, là, ce qu'il y a eu comme...
Au niveau des conditions de travail, est-ce qu'il y a eu des gains?
Oui, on a réussi à avoir des gains. Une prime de disparité régionale. Dans notre région, ça nous touche moins, mais quand même, on le voit beaucoup dans les régions, là, Côte-Nord, Abitibi, Gaspésie, où c'était vraiment un problème. Donc, on souhaitait vraiment avoir une prime de disparité régionale, on a réussi.
Ça veut dire que les gens qui vont travailler dans ces coins-là ont une prime supplémentaire.
Oui, tout à fait. On sait que le coût de la vie est énorme ici, mais il est encore plus là-bas, puis qu'ils perdent de plus en plus de travailleuses. Donc ça, on a réussi à atteindre ça. Une prime de valorisation pour les travailleuses d'expérience, une bonification des assurances collectives. On sait tous, hein, les assurances collectives, comment ça coûte cher. Des fois qu'on n'a pas une très grande couverture, donc là, il va y avoir une bonification vis-à-vis cette prime-là. On est content sur certaines choses, mais je pense que le gouvernement doit réfléchir à ce qu'il veut pour la suite des choses.
D'autant plus que ce contrat de travail-là dure combien de temps?
C'est 5 ans, mais comme je vous ai dit, on a quasiment déjà deux ans
de retard.
Passé,
donc, là, c'est dans 3 ans. Tout est à recommencer dans 3 ans.
Oui, tout à fait. Puis on sait que ces travailleuses-là sont motivées, sont mobilisées. On l'a vu dans le passé, on l'a vu encore cette année. Malheureusement, le gouvernement n'a pas d'écoute. Puis ces travailleuses-là vont continuer, mais on espère que... Là, il y a quand même des augmentations. On espère qu'ils s'en iront pas dans le réseau public. C'est ça qui arrive. C'est que ces travailleuses-là pourraient gagner des fois jusqu'à pour eux-mêmes une technique identique dans le réseau public, dans le secteur scolaire. Ils pourraient gagner jusqu'à 8 fois 8 $ de plus dans ce réseau-là.
Présentement, c'est combien le salaire de l'heure là, de base?
Bien, de base, ça joue, ça dépend du secteur, mais ça dépend de leur métier. Mais mettons, une technicienne en éducation peut gagner environ au maximum 30. Bien là, avec les augmentations, j'ai pas les chiffres, là, mais une trentaine de dollars de l'heure.
Autour de 30 $
Oui, c'est ça. Mais là, dans le réseau public, ça peut aller jusqu'à 38. Vous allez me dire, ils font pas les mêmes tâches, mais ils ont quand même le même type de cours. Donc, c'est là qu'il y a une année, on travaille parce qu'on veut gagner notre vie. Hein?
Quand même des gens qui s'occupent de nos enfants.
Tout à fait.
En tout cas, je vous dis ça, oui. Sans vouloir prendre parti. Là,
c'est pas des gardiennes, hein? C'est des éducatrices, c'est des services alimentaires. Aujourd'hui, là, faire un plan de repas pour ces enfants-là, c'est rendu. On a deux enfants, on est découragés. Mais eux autres, ils en ont une garderie, un CPE au complet. Donc, juste faire un plan de repas pour le service alimentaire, c'est quand même quelque chose. Avec les allergies, avec les plans, avoir des bons repas et tout, il faut qu'ils soient créatives, là, ces travailleuses-là, parce que en plus, on sait, le budget souvent ne vient pas. Donc, la créativité, là, c'est dans leur quotidien, même quand on fait de la nourriture.
On l'a déjà mentionné, mais pour le bénéfice de nos auditeurs, combien ils sont là, chez nous dans la Naudière, les...
Nous, ils sont en établissement, là, parce que c'est des fois, ils ont deux puis trois établissements. C'est 22 établissements, environ 425 travailleuses.
425 travailleuses.
Oui, tout à fait.
Et comme vous l'avez si bien dit, ça sera recommencé dans très, très peu de temps. Vous n'êtes pas découragé des fois de négocier puis de voir que ça rentre pas dans la tête des gouvernements, vos revendications?
Ben, je suis toujours là pour le combat. Découragé de mon gouvernement qui écoute pas, qui veut envoyer comme là, on le prend, là, on parle souvent du privé, mais là, c'est la même chose, là. Notre gouvernement, il a envie d'envoyer, parce qu'il n'y a pas de place en CPE. Il n'y en a pas. Les parents attendent listes d'attente. Les enfants sont pas nés, sont ces listes d'attente. Puis ils arrivent, puis ils l'ont toujours pas. Fait qu'ils sont obligés de se retourner vers des garderies privées. Est-ce que des garderies privées, c'est ça qu'on veut comme Québec? On paye déjà dans nos impôts. Est-ce qu'on veut recommencer à payer encore? C'est le même principe que le réseau de la santé. On paye déjà dans nos impôts. On s'est donné, mes grands-parents se sont battus pour avoir un réseau de la santé, pour avoir des CPE, pour que mes parents puissent m'envoyer en CPE. Ben, je pense qu'on l'a, ce joyeux-là. Pourquoi pas investir dans celui-là au lieu d'investir dans le privé?
Patricia Rivet, vous avez un nouvel exécutif, je pense. Vous avez été réélue comme présidente encore pour un mandat de...
3 ans.
3 ans. Alors, écoutez, nul doute qu'on va se reparler souvent.
Oui, tout à fait. Bien contente.
Merci beaucoup.
Merci.
On parlait à Patricia Rivet, elle est présidente du Conseil central CSN de La Naudière.
La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm saura répondre à tous vos besoins dans le plus grand respect pour vos préarrangements funéraires. La coopérative funéraire de Matawini-Montcalm avec flexibilité et bienveillance. 450-886-3763 et 450-839-3450.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 $ en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte?
Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ à Saint-Édouard-de-Masquinongé, Quincaillerie Dépanneur 348, à Saint-Angèle-de-Prémont, Épicerie Jacques-Lessard, à Saint-Ursule-Dépanneur Marie-Lou, à Saint-Alexis-des-Monts, Dépanneur Beaussoir, à Saint-Paulin-Boucherie, 4 saisons et à Louisville, Tabagie Grand-Père, dépanneur régional et dépanneur L'Escadre. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Le civisme sur la route, c'est...
C'est juste de savoir-vivre.
Le civisme sur la route, c'est...
Ah, tout le monde sait ce que c'est.
Le civisme sur la route...
C'est juste bien se comporter, arrêter de couper le monde...
C'est ça. Arrêter de couper le monde.
Ah, ouais. OK, je comprends. Excuse-moi.
C'est aussi ne pas accélérer au feu jaune, mettre son clignotant...
Excusez, je peux y aller?
Oui, oui.
C'est juste de savoir vivre.
Exact. Bien se conduire sur la route, c'est juste la base. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Pendant le conflit de travail à Post-Canada, le gouvernement du Québec met tout en œuvre pour que les personnes concernées reçoivent les sommes auxquelles elles ont droit. Les chèques de plusieurs ministères et organismes sont distribués dans la plupart des bureaux de Service Québec. Pour savoir quels chèques seront remis et où et quand ils seront distribués, consultez le site québec.ca/grève-post-canada ou communiquez avec Service Québec au 1-877-644-4545. Un message du gouvernement du Québec.
Au Québec, nous savons garder la tête froide. Surtout quand Harvey se propose des laits frappés à seulement 3 $. Crémeux, onctueux et préparés à la main avec des produits laitiers 100% canadiens. Difficile de résister. Laits frappés boissons glacées, seulement 3 $ pendant tout l'été, chez Harvey's, votre bar à burger et plus.
Avec vous, partout dans la Naudière.
Sainte-Marceline-de-Kildare, La Noraine, Saint-Damien,
Raton, CFNJ, 99.1, 88.9.
Les chansons américaines, on est bien capable de s'en passer.
La Naudière PM. Affaires judiciaires et policières.
Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, annonce un financement de 4,4 millions de dollars sur 3 ans. Et ça va reconduire l'équipe de la SQ qui est consacrée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes. François Morin s'est entretenu avec la porte-parole régionale de la Sûreté du Québec, Héloïse Cossette.
Héloïse Cossette de la Sûreté du Québec, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, qui annonce un financement de 4,4 millions sur 3 ans. Ça va à l'équipe de la SQ consacrée à la lutte contre la violence entre partenaires intimes. D'abord, d'entrée de jeu, il faudrait peut-être rappeler justement le travail réalisé par cette équipe-là.
Et vraiment, qu'est-ce que c'est la violence entre partenaires intimes aussi? C'est un petit peu ce qu'on appelait par le passé la violence conjugale. Maintenant, on appelle ça la violence entre partenaires intimes parce que c'est un terme qui est plus inclusif, qui représente plusieurs types de relations intimes que les gens ont. Des fois, ça va être une fréquentation. Les gens vont être mariés, vont être en union libre. Fait qu'on englobe tout ça dans le terme violence entre partenaires intimes, peu importe le sexe, le genre, la fréquence de la relation. Les gens sont en relation, puis on appelle ça comme ça désormais. Ce vocabulaire-là puis a été instauré en même temps que toute une réflexion par rapport au fait que on doit vraiment axer nos interventions autour de la personne qui est victime, lui redonner du pouvoir, qu'il y a un lien positif avec elle, savoir détecter les situations à risque. Puis il y a différents rapports qui ont été publiés qui ont mené à la création de cette équipe-là en 2022. Là, ce qui était annoncé, c'est qu'il y a du financement qui est reconduit pour cette équipe-là. Dans la région de la Naudière, on retrouve une coordonnatrice qui va vraiment s'intéresser à toutes les situations de violence entre partenaires intimes, va prendre connaissance des rapports, va vérifier est-ce que les policiers sont suffisamment outillés, est-ce que on sait que qu'est-ce qui devient dangereux, c'est la rupture dans une relation, c'est ce moment-là que ça peut devenir dangereux de dégénérer. Est-ce que les policiers, tu sais, on veut qu'ils soient en mesure de reconnaître des signes peut-être précurseurs de des signes que homicidaires, c'est qu'ils sont en jeu. On va collaborer aussi à tout ce qui est les bracelets anti-rapprochement. Donc tout ça est géré par cette équipe-là, nos coordonnateurs en violence partenaire intime. Et donc au quotidien, ils font une série d'actions pour s'assurer que les policiers sur le terrain aient vraiment tout ce qu'il faut pour tout ce qu'il leur faut pour travailler ce phénomène-là, qui est malheureusement en augmentation, même encore aujourd'hui.
Bon, justement, on regarde les statistiques là, qui sont diffusées, notamment dans le communiqué là, de l'annonce. On parle quand même là, de près de 13 000 dossiers en matière de violence conjugale ou en partenaire.
Exact, en partenaire intime, mais également, il y a tous les dossiers de violence intrafamiliale qui représente plus de 5 000 autres dossiers survenus si on pense à l'année 2024. Les statistiques le démontrent, ce sont des phénomènes en augmentation, puis on a la prétention aussi de dire que oui, on renforce les liens avec les maisons d'hébergement, avec différentes ressources, mais c'est vraiment collectivement qu'on essaie de maximiser les actions pour que les victimes de ces situations-là se sortent de leur fâcheuse position puis soient appuyées là-dedans. Là.
Bon, quand on parle
ça prend vraiment une implication de la population. Oui, les forces policières, quand on est appelé, puis toutes les autres ressources qui sont à la disposition des victimes, là.
Quand on parle effectivement de collaboration avec les partenaires, on fait beaucoup, beaucoup de prévention, mais le travail policier aussi, et on est obligé d'en venir là, on fait un peu de coercition.
On est appelé, c'est sûr, c'est quotidien, sur des situations de chicane ou que des gens qui disent carrément « j'ai été battu, je veux porter plainte ». À chaque fois qu'on se déplace, qu'on a connaissance de ça, on va, avec l'accord de la victime, s'organiser pour qu'elle soit référent de ressources que quelqu'un rentre en contact avec cette victime-là. Ça fait malheureusement partie de notre travail quotidien, mais ça veut dire que dans les gens qui nous entourent, il y a peut-être quelqu'un qui est mal pris, qui est victime de violence. Donc, c'est important aussi pour d'être à l'affût, puis de pas hésiter à ouvrir la discussion avec une personne qu'on croit victime d'être. Il y a du contrôle aussi qui s'installe des fois dans les relations de couple, contrôle coercitif, tout ça. C'est complexe comme situation, puis c'est pourquoi on a des ressources dédiées spécialement à ça. Des gens qui sont spécialisés et on a la chance pour la Nodière d'avoir une de ces ressources-là. Dans ce qui est annoncé là comme par le ministre, bien il y a une ressource là qui est attachée vraiment à la région de la Nodière.
En terminant, il faudrait peut-être rappeler aussi aux gens qu'il y a quelques années, ben, en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, le gouvernement du Québec a annoncé la mise en place du programme là, de bracelets là, pour éviter justement que des agresseurs s'approchent de leurs victimes. Est-ce qu'on est appelé à gérer ça aussi?
Absolument. À tous les jours, on reçoit des appels, que ce soit parce que la personne qui a le bracelet va se retrouver dans la zone interdite ou va se rapprocher de la victime. La priorité sera toujours d'aller sécuriser les victimes. On va vérifier également, des fois, c'est des problèmes aussi de batterie ou encore une manipulation au niveau du bracelet. Donc, c'est sûr que ça fait partie de nos appels quotidiens d'aller vérifier, justement, collaborer à une centrale d'appel qui gère ça, qui est externe à la sûreté, mais on va faire les vérifications nous autres terrain. Toujours en priorité, c'est d'aller s'assurer que la victime est correcte. Puis oui, c'est un volet de plus. Fait qu'on collabore à ce programme-là à tous les niveaux, puis à commencer par les patrouilleurs sur le terrain.
Lanaudière PM, culturel.
Comme quoi, rien n'est immuable dans le merveilleux monde de la radio. On a une belle nouveauté pour vous. Au lieu d'une entrevue avec Sylvain Benoît, qu'on va passer, somme toute, demain ou un peu plus tard, on a avec nous Antoine Carabinier, cofondateur du Cirque Alphonse, un artiste s'il en est un. Jean-Sébastien Martin, également du Centre culturel des Jardins, diffuseur du Festival Bastringue, Festival de cirque, et partenaire du Cirque Alphonse depuis 3 ans. Bonjour, messieurs.
Salut. Bonjour.
Et venez nous donner l'eau à la bouche, littéralement. Rappelez-moi un peu, là, c'est la 3e édition, c'est ça?
Oui, c'est ça, le Festival Bastringue. Ça fait 3 ans qu'on fait ça en collaboration avec le Centre culturel des Jardins. Puis c'est un festival de cirque, donc qui réunit tout ce qu'on peut avoir dans le cirque, donc de l'acrobatie, de la musique live aussi, bien sûr.
Combien d'artistes sur scène environ?
Il va y avoir à peu près combien de spectacles?
Il y a 6-7 shows en billetterie, mm-hmm, sous le chapiteau. Donc on monte un chapiteau devant le cégep, mais la moitié de la programmation de Bastringue est gratuite. Un peu partout dans la ville de Joliette.
Ah oui.
C'était un peu ça l'idée, en fait. Il y a quelques années, on s'est dit, on veut amener quelque chose qui est vraiment à notre couleur, qui vient investir le centre-ville, puis vraiment mettre sa marque. Puis on avait commencé à collaborer dans le temps de la pandémie, mm-hmm, avec Alphonse, avec la gang d'Alphonse, qui venait d'acheter un chapiteau. Puis on s'est dit, hey, les gens, l'expérience en chapiteau, elle est extraordinaire. Le partez pas à coup sûr. Puis on s'est dit, on fait quelque chose avec ça. Puis c'est depuis ce temps-là qu'on est complices ensemble. Puis en fait, 3e édition, mais la particularité cette année, c'est qu'on double le festival. Donc sur 2 semaines plutôt qu'une. Donc du 17 juin au 29 juin, avec un paquet de shows sous le chapiteau, mais également partout en ville.
Quand vous dites partout en ville, donnez-moi des exemples concrets, là.
Je te donne un exemple très concret. On va se mêler à d'autres événements. Fait que il y a Waskabidan le 21 juin qui est la fête pour les peuples autochtones. Ben nous, on a une gang de artirques qui vient du Grand Nord canadien, les Inuits qui descendent pour le festival Bastringue. Ben, on s'en va à Waskapitan, puis on s'en va animer avec eux sur le site de la Place Bourget. À la Saint-Jean-Baptiste, Flip Fabric débarque avec un méga spectacle à l'extérieur qui s'appelle Vacances, hein, juste à temps pour le beau temps qui s'en vient. Là.
Donc, vous avez décidé ça, vous?
Tout ça, c'est gratuit, mais le clou du gratuit, l'année passée, à notre ouverture, on avait un funambule qui traversait la rivière à l'Assomption au-dessus de la chute, pas attaché. Donc, on s'est dit, OK, ça prend toujours du cirque sur une image emblématique de Joliette. Cette année, on y va pour la cathédrale. Donc,
la cathédrale?
Ouais, donc, il va y avoir 2 danseurs qui
c'est
vont...
le clou du gratuit. Vous n'êtes pas marteau, là.
Et on n'est pas marteau. On est un peu marteau, par exemple. Il faut être un peu marteau. Fait que le 17 juin, les gens sont invités à partir de 17h30 devant la cathédrale. Puis, il va y avoir ce numéro-là où des gens vont danser sur la façade attachée au clocher.
Qui est intéressant, puis les gens ne savent peut-être pas à la maison et dans l'automobile, c'est une troupe familiale, la Naudoise, le Cirque Alphonse. Et ça, il faut le mentionner, c'est chez nous, ça.
Ouais,
c'est
exact.
Du talent de chez nous.
Ça fait ça va faire presque 20 ans maintenant que la compagnie existe. On est à travers le monde, mais on aime ça revenir dans notre région puis participer à des événements ici. Dans notre cœur, c'est la Naudoise complètement. Puis de revenir et collaborer avec tout le monde ici, c'est vraiment quelque chose qui nous tient.
Il y a un directeur artistique chez vous ou comment ça s'orchestre les différents numéros? C'est vous qui décidez ou c'est en comité?
Donc, il y a ma sœur et moi, Julie Carabinier, et moi qui sommes directeurs artistiques. Puis on a un metteur en scène, Alain Franqueur, qui met en place les spectacles avec nous.
Puis il y a des jeux d'éclairage, j'imagine?
Oui, il y a de l'éclairage. Il y a 3 musiciens live avec nous. Tout le monde participe à la musique, au cirque, de la danse. C'est vraiment pour toute la famille. Donc, c'est la noce.
Ça dépend des shows, hein?
Les shows
Cirque Alphonse ne sont pas toujours pour toute la famille. Mais là, cette année, à Bastring, en grande première mondiale, le nouveau show d'Alphonse. Puis quand on dit mondial, là, ce show-là, il va faire le tour de tous les continents là, dans les prochaines années.
Mais
il part d'ici et ça va partir ici. Donc, pour venir découvrir le nouveau show, la noce.
La noce d'Alphonse. Donc, c'est les premiers shows. Il faut venir en profiter avec nous. Puis, habillez-vous, mettez-vous chic pour la noce.
Vous m'avez vraiment mis l'eau à la bouche. C'est tantôt, à la blague avec le collègue Nicolas, on se disait, faut y aller. Ben, vous m'avez convaincu. Rappelez-nous les dates et les endroits. Là.
Alors, c'est du 17 au 29 juin. On va avoir plusieurs représentations de la noce du Cirque Alphonse, mais faites ça vite parce qu'il y a déjà des représentations complètes. On a également un show pour toute la famille Cirque Collini qui va être là pendant le premier week-end. Puis au deuxième week-end, on a des invités du Cabaret du Monastère qui, eux, viennent nous faire quelque chose pour adultes en show de fin de soirée.
Pour adultes?
Pour adultes. Avertis. Même.
Oui. C'est sûr que je vais être là.
Puis on va avoir en grande première nord-américaine un artiste américain, mais qui demeure en Europe, qui est considéré comme le meilleur jongleur au monde, Wes Peden, qui est ici. Il débarque de la France le 26. Il va être avec nous pour 2 représentations avant de s'en aller à Montréal complètement cirque. Fait qu'on amène du gros calibre en cirque ici à Joliette.
En terminant, si les gens veulent consulter par Internet?
Sur le site du Centre culturel des Jardins. Il faut faire vite parce que Chapiteau, c'est seulement 250 places. Donc, on se hâte à prendre nos places.
On parlait avec Antoine Carabinier, cofondateur du Cirque Alphonse et artiste, et Jean-Sébastien Martin du Centre culturel des Jardins, diffuseur du Festival Bastring.
La circulation est une présentation de Joliette Nissan. Contactez-nous au 450-756-4686 parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
À l'approche de la Naudière sur les routes, on a un petit ralentissement 40 direction est à partir de Bourget jusqu'à la 640 secteur Repentigny aussi. Maintenant, on commence à être nombreux entre Industriel et Valmont. La 640 direction est à partir de Dumais, c'est lent jusqu'à l'autoroute 40. Direction ouest, il n'y a pas trop de problèmes présentement. 25 nord, on est au ralenti du pont Payan, au pont de l'île Saint-Jean, pont Sophie-Masson vers Terrebonne. On est à vitesse réglementaire, mais de l'autre côté, nombreux jusqu'au chemin Sainte-Marie à Mascouche. Et enfin, pour 138 est, le pont Le Gardeur vers Repentigny, ça va bien, autant pour l'arrivée, la traversée, que de l'autre côté.
Les rénovations seront bientôt terminées au nouveau Maxi Saint-Michel-des-Saints situé au 110 rue Brassard. Découvrez l'expérience complète lors de la grande ouverture le jeudi 5 juin. C'est un rendez-vous pour de la fraîcheur, des offres exclusives et plein de bas prix.
Envie d'un bon lunch? Direction Casse-Croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. Juste à côté du camping Sainte-Émilie, c'est le spot pour un déjeuner le week-end. Pour dîner, pour souper, venez goûter au nouveau burger Ma Tante Roulotte. Fromage à raclette, confit d'oignon et bacon. Un vrai délice! Suivez-nous sur Facebook pour les spéciaux du vendredi. Fait maison, fait avec amour, fait par Ma Tante. Casse-croûte chez Ma Tante Roulotte à Sainte-Émilie. 1551 Saint-Joseph à Sainte-Émilie de l'Énergie.
Hey! Tu veux laver tes vitres? Appelle donc G-Vitre. C'est le spécialiste en lavage de vitres. Lavage à pression aussi disponible. G-VIT au 450-559-6928.
Envie de vivre une expérience culinaire? Découvrez le bistrot La Cache du Lac à Saint-Gabriel-de-Brandon. Sur le menu, vous retrouverez des plats savoureux conçus avec des produits de chez nous soigneusement choisis et une belle sélection de bières, vins et cocktails. En semaine, optez pour le menu du jour et profitez d'un festin à petit prix. Trois choix de repas à partir de 18 $ avec potage et dessert inclus. Le week-end, débutez votre journée avec un bon déjeuner entre 8h et 11h30. Réservez dès maintenant au bistrot La Cache du Lac au 450-271-8217 ou en ligne à cachedulac.com.
Comme c'est l'habitude de cette heure-ci, on retrouve le journaliste et directeur de l'information chez nous, François Morin.
J'en demande pas tant, mais bonne fin d'après-midi.
On peut ajouter d'autres titres, si vous voulez. À Ottawa, le Bloc québécois persiste et signe.
Oui, c'est parce que le Bloc québécois a redéposé ce matin son projet de loi pour protéger la gestion de l'offre, dis-je bien. Et puis, comme on dit à bon québécois, tout est dans tout. Il y a un sondage léger qui a été publié aujourd'hui par les producteurs de lait du Québec et qui indique que 94% des répondants jugent qu'il est important pour le Canada de protéger la sécurité alimentaire en encourageant une production locale d'aliments. Et le même sondage indique que plus de 80% des participants s'inquiètent également que des produits américains remplacent les produits laitiers canadiens, alors que les normes et la réalité de production diffèrent largement au sud de la frontière. Alors, il y a le député de Berthier-Masquinongé et porte-parole du Bloc québécois en matière d'agriculture et agroalimentaire, Yves Perron, qui a mentionné évidemment qu'il est urgent d'adopter le projet de loi. Alors, on l'écoute.
Les quotas d'importation qui ont été octroyés dans les concessions de négociation des traités antérieurs ne sont pas encore tous occupés. Hein. Donc, il va y avoir une légère croissance encore des produits étrangers sur nos tablettes jusqu'à 18 % à terme là, dans le lait qui est le secteur le plus touché. Nos citoyens n'en veulent pas. Vous venez de me le démontrer avec le sondage que vous citez. Et nous autres non plus.
Au sujet de la crise du logement, la ministre France-Hélène Duranceau est encore prise à partie.
Cette fois par la députée de Terrebonne, la péquiste Catherine Gentilcœur. Alors, elle a réagi, Mme Gentilcœur, à une proposition de la ministre France-Hélène Duranceau d'augmenter le loyer des gens qui habitent des logements abordables si leur situation financière s'améliore. Alors, Mme Gentilcœur est pour le moins catégorique. C'est une solution à courte vue, selon elle.
Les Autochtones craignent le passage d'un oléoduc au nord.
Oui, les Premières Nations qui sont plutôt inquiètes en regard de l'intention des gouvernements de ressusciter le projet d'oléoduc transcanadien, c'est que le tracé impacterait des terres ancestrales des Autochtones, notamment du côté de Manawan. Alors, on écoute là-dessus le chef de la communauté, Sibi Flamand.
Ce qu'on voit avec les projets comme les oléoducs, pipelines, tout ça, ça a toujours été un enjeu pour les Premières Nations de se mobiliser contre ces projets-là, surtout lorsqu'il y a question où les activités traditionnelles ou bien les droits ancestraux ne sont pas reconnus. Puis jusqu'à maintenant, le Québec n'a pas encore signé aucune entente, sauf celle de la Convention de la baie James et du Nord du Québec.
Les médecins et le gouvernement ne parlent pas le même langage.
L'Association des médecins omnipraticiens Laurentier de la Naudière persiste et signe à ce sujet-là, c'est que les problèmes d'accessibilité en santé dépendent essentiellement du manque d'effectifs à tous les niveaux et le gouvernement fait tout simplement fausse route en croyant que la réforme de la rémunération des médecins les forcera à avoir plus de patients. Et on rappelle que le ministre Christian Dubé souhaite également que les omnipraticiens voient plus de patients le soir et les fins de semaine. On écoute là-dessus la présidente de l'association, la docteure Lynn Couture.
On a besoin de créer un réseau vraiment attractif pour que tout le monde ensemble, on puisse travailler. Puis effectivement, là, on n'est pas les seuls à pas travailler le soir. Là. Si vous avez vu, il y avait un tableau pour les infirmières, il y avait un tableau pour d'autres mondes. La majorité des gens travaille beaucoup plus le jour que le soir. Si vous voulez qu'on change, on va le faire. Mais ça va vouloir dire qu'il va y avoir moins de services le jour, alors que c'est le prime time, là, le meilleur moment. Là. C'est pour ça que les bureaux sont ouverts le jour là, dans n'importe quelle autre sphère d'activité.
Donald Trump fait de moins en moins peur.
Oui, les pays étrangers, de même que les marchés boursiers, ne sont plus impressionnés vraiment par les menaces du président américain Donald Trump au sujet des fameux tarifs. On le qualifie de taco depuis une couple de semaines. C'est un acronyme pour Trump Always Chicken Out, ce qui signifie que le président américain n'est pas l'homme fort et confiant qu'il souhaite présenter. Alors, notre analyste politique, Mathieu Bélanger, affirme que ce nouveau surnom n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour M. Trump.
Alors que maintenant, lorsqu'on dit qu'il se dégonfle, toujours, là, ça vient vraiment attaquer cette image-là. Et c'est sa crédibilité qui en paie le prix. Est-ce que ça va percoler? Reste à voir.
C'est peut-être aussi parce qu'on le qualifie de vieux taco.
Oui.
Québec solidaire.
Il y aura besoin d'un changement d'huile.
Oui. Québec solidaire perd une autre alliée.
Oui, celle qui a été candidate pour Québec solidaire lors de l'élection partielle dans Terrebonne, Nadia Poirier, claque la porte et joint les rangs du Parti québécois. Elle siège désormais sur le conseil exécutif local du Parti québécois de Terrebonne. Et on se souviendra qu'au lendemain de la victoire de la candidate péquiste Catherine Gentil-Corps, Mme Poirier s'était vidé le cœur, déplorant d'avoir reçu que très peu d'aide de la part des employés et des députés de QS, même qu'elle a affirmé qu'aucun député, à l'exception de Rouba Ghazal, ne s'est déplacé pour l'appuyer durant la campagne électorale.
Mais en terminant, vous nous parlez d'un présumé prédateur.
Qui va subir son procès, mais en attendant, il devra attendre justement cette procédure-là en prison. Il s'agit de Paul-Serge Pavlika, 70 ans. Il est accusé notamment de traite de personnes et d'agression sexuelle, de même que menace de mort. Alors, le tribunal a conclu donc que le monsieur devra demeurer détenu d'ici la fin des procédures. Et ce qu'on a dit ce matin, c'est que l'enquête sur remise à liberté, on l'a frappé d'une ordonnance de non-publication. Donc, on peut pas vous dire ce qui a été dit, en fait, au niveau des témoignages. Et Pavlika avait comparu une première fois le 17 avril et était détenu depuis. Il va revenir en cours donc le 14 juillet. Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 27 mars et le 15 avril du côté de Sainte-Mélanie. Alors, c'est quand même tout récent. Et le septuagénaire avait quand même été déjà condamné pour des infractions similaires dans la région des Laurentides en 2022.
Merci beaucoup, François. Il y a d'autres nouvelles aussi?
À CFNJ.net.
Au 99.1-88.9 CFNJ, c'est Lanaudière PM avec Michel Arnois.
CFNJ 99.1-88.9.
Lanaudière PM, Première Nation.
Eh bien, cette semaine, le chef Sibi Flamand se prononce sur la possibilité qu'un oléoduc transcanadien, alors à travers le Canada, traverse le nord du Québec sur les terres ancestrales des Atikameks. On parle avec le chef Sibi Flamand. Chef Flamand, le premier ministre François Legault souhaite qu'un pipeline soit construit dans le nord du territoire du Québec. C'est bien sûr avec les pressions qu'on a de Donald Trump, les menaces en endroit du Canada. On veut donc maintenant faire ressurgir ce projet de pipeline. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Ça risque de passer sur les territoires autochtones, non?
Effectivement, ce projet-là va passer directement sur les territoires des premiers peuples au Québec. Je pense que ça va créer beaucoup, beaucoup d'enjeux, tant au niveau environnemental, mais également au niveau des pratiques et des activités traditionnelles sur le territoire des premiers peuples.
Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il y ait une acceptation de ce côté-là?
D'abord, ce type de projet-là avait déjà été discuté amplement il y a plusieurs années de ça, notamment en lien avec le mouvement Idle No More. Ça avait été une grosse manifestation contre les projets d'oléoduc, puis je pense que c'est dans cette même direction que nous allons.
Il y a également, d'un autre côté, le gouvernement, à l'époque, reprochait au projet de ne pas contribuer à la lutte climatique et de ne pas offrir de garantie qu'il ne nuirait pas à l'habitat des bélugas, parce que ça se terminerait, ça, dans le coin de cette île, mais ça pourrait également passer par le sud, éventuellement. Il risquerait d'avoir un problème, là.
Effectivement, il va y avoir des problèmes, tant au niveau environnemental, mais aussi au niveau social. Par exemple, on sait qu'il y a de la pression politique, économique chez nos voisins au sud du Canada. Puis ce qu'on voit avec les projets comme les oléoducs, pipelines, tout ça, ça a toujours été un enjeu pour les Premières Nations de se mobiliser contre ces projets-là, surtout lorsqu'il y a question où les activités traditionnelles ou bien les droits ancestraux ne sont pas reconnus. Puis jusqu'à maintenant, le Québec n'a pas encore signé aucune entente, sauf celle de la Convention de la baie James et du Nord du Québec.
C'est drôle parce que ces projets-là vont être discutés ou sont discutés lors de la réunion entre les différents premiers ministres, mais il n'y a personne des groupes autochtones qui sont présents.
Malheureusement, les Premières Nations sont encore mises de côté, notamment lorsqu'il y a des discussions avec le Conseil de la Confédération, c'est ce que je pourrais appeler la rencontre des premiers ministres, alors que les autorités politiques des peuples autochtones ne sont pas considérées lorsqu'il y a des discussions, lorsqu'il y a question de l'économie, de relations internationales, mais également de politique en général.
C'est un problème majeur parce que, bon, quand on parle d'économie, il faut faire avec vous, non?
Effectivement, c'est un problème général. Puis lorsqu'on parle que le Canada a adopté une loi harmonisant les lois du Canada en lien avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ça pourrait contribuer à créer un dialogue aussi entre les peuples autochtones et le Canada, sauf que le Québec n'a jamais mis de l'avant un projet de loi en ce sens, sauf des motions, mais qui n'ont pas de valeur juridique à l'heure où on se parle.
Si on parle strictement environnement, chef Flamand, les énergies fossiles, est-ce que c'est un bon investissement pour l'avenir du pays?
Je dirais que ce type de projet-là, c'est encore un enjeu. Vu qu'il y a question d'environnement, de changement climatique, comment on pourrait travailler pour pouvoir avoir un nouvel type d'énergie? Ce sont des questions à se poser au niveau environnemental, au niveau changement climatique. Il y a encore beaucoup de questions à répondre. Puis je pense que ce type de projet-là est dépassé.
Inévitablement, le gouvernement ou les différents gouvernements provinciaux devront s'entendre avec les Premières Nations. Qui sera répondant chez vous?
Qui sera répondant chez nous? C'est l'ensemble des trois communautés tchikamekw qui va répondre si jamais il y a question de développement. En ce sens, c'est le grand chef de la nation tchikamekw également devra prendre des actions nécessaires également pour défendre les droits et les intérêts des membres de la nation tchikamekw.
Chef Sibi Flamand, merci beaucoup. Après les publicités, on parle avec Pierre Paquette et on parle de quoi? On parle d'acier et d'aluminium.
Puis Simon, ta pub Royal Lepage.
J'hésite en te parler de la protection royale que j'offre à mes clients acheteurs et vendeurs ou utiliser un verre d'oreille comme
Simon Messier, courtier immobilier résidentiel
et commercial.
Non, pas ça.
Ah, 450-803-9871. Royal Lepage partenaire, agence immobilière.
Écoute en direct, actualité régionale, réécoute, concours et bien plus sur l'application CFNJ à télécharger sur Android et Apple.
Avec C'est ma vie, Guylaine Tanguay se livre à cœur ouvert à travers les plus grands classiques country et ses propres chansons.
Ça vient de loin, de l'écho des montagnes, son qui nous fait penser à la campagne.
Un spectacle intime, rempli d'émotion et d'authenticité, le 6 juin au Centre culturel Desjardins. Billets en vente sur www.spectaclejoliette.com. Une présentation de la Source Bain Nordique.
Ici Catherine Barry et Tania Devillers, vos pharmaciennes propriétaires de la pharmacie Jean Coutu de Saint-Gabriel-de-Brandon.
Avant de partir en voyage, pensez à préparer une trousse santé à apporter avec vous. Nous allons la personnaliser afin qu'elle convienne à vos besoins et aux risques de votre destination. Lorsqu'on voyage, il est également recommandé de s'informer sur les différentes maladies possibles. Nous pouvons vous prescrire un antibiotique pour la diarrhée du voyageur, et un traitement préventif pour la malaria ou le mal aigu des montagnes. Et n'oubliez pas de mettre à jour votre carnet de vaccination. Nous pouvons vous prescrire et vous administrer les vaccins nécessaires.
Pour être bien conseillé, appelez-nous au 450-835-5071 ou venez nous voir en pharmacie au 185 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon.
À CFNJ, voici le commentaire de Pierre Paquette.
Bonjour Pierre Paquette, comment allez-vous?
Ça va bien vous-même, mon cher.
Absolument, absolument. Écoutez, on va parler d'un sujet qui est moins jojo. Moi, je soupçonne ce type-là, Donald Trump, d'avoir une plaque de métal au-dessus de la tête. Alors, ça y chauffe un peu ces temps-ci. Il veut doubler dès mercredi les droits de douane sur l'aluminium et l'acier qui passeront de 25 à 50 %. Et oui. J'ai le goût de vous demander, Pierre, quelle serait la bonne stratégie à adopter de la part de notre gouvernement?
Ouais, mais d'abord, c'est pas la première fois que Donald Trump utilise les tarifs pour dans le cadre de guerre commerciale. En 2018, il avait fait la même chose. Ça avait duré presque 2 ans et demi avant qu'on puisse trouver une solution. Donc, là actuellement, il nous annonce pour mercredi une augmentation des droits de douane sur l'acier de 25 à 50. Pour l'aluminium, c'est de 10 à 50, ce qui est annoncé.
C'est énorme.
Mais il faut se rappeler qu'il y avait fait les mêmes annonces la semaine précédente pour l'Union européenne, et finalement, il a reculé quelques jours avant l'échéance. Alors, c'est peut-être la même chose qui va se produire, mais c'est sûr que du côté canadien, il faut se préparer au pire. Et comme l'a mentionné la ministre de l'Industrie, Mélanie Joly, d'abord, il faut trouver des contre-mesures ciblées qui font mal à l'économie et particulièrement aux États républicains. Et ça, déjà, la liste a déjà été annoncée à quelques reprises. C'est probablement qu'ils vont la peaufiner jusqu'à la fin. Il faut de l'aide à l'industrie. Et il y a eu des promesses qui ont été faites pour utiliser dans les grands projets là, qui devraient être annoncés suite aux rencontres entre M. Carney et les premiers ministres des provinces, plus d'acier canadien, plus d'aluminium canadien, plus de bois aussi. Les produits forestiers aussi sont ciblés. Et finalement, il faut continuer à chercher à diversifier notre commerce avec d'autres régions du monde qui sont peut-être moins instables en termes de cohérence économique. Alors, il y a quand même, je pense, un plan sur la table du côté du Canada. Mais le mieux, évidemment, ce serait que M. Trump s'aperçoive qu'il va dans la mauvaise direction, comme il l'a fait à plusieurs occasions.
Pierre, là, vous me direz, Pierre, si je me gourre ou si je me trompe, moi, je vous parlerai pas de l'acier ni du bois, je connais moins le dossier, mais l'aluminium, il semble que les Américains en ont absolument besoin de notre aluminium. Moi, je me dis, pourquoi on fait pas un embargo? Pourquoi on met pas de côté tout l'aluminium qui est produit? On met ça là, dans un entrepôt, on attend que la tempête passe, on vend ça à ceux qui en veulent vraiment. On pourrait, de cette façon-là, obliger les Américains à reculer.
Oui, bien, il faudrait trouver d'autres débouchés. Ça se fait pas, ça, du jour au lendemain. Alors, c'est pour ça que c'est une solution qui serait très difficile à appliquer. Parce que
ouais, c'est un peu simpliste, oui, je suis d'accord avec vous.
Non, mais c'est parce que à court terme, ça serait difficile à appliquer. Peut-être qu'à long terme, il y a des choses qu'on peut faire dans ce sens-là. Parce que c'est sûr que les Américains, ils manquent d'acier. Alors, ils n'auront pas le choix que d'acheter l'acier canadien, qui est d'ailleurs très en demande en Europe.
Et l'aluminium aussi.
Et l'aluminium, ils en produisent presque pas. Alors, c'est sûr que s'ils n'ont pas l'aluminium canadien, ils vont avoir de sérieux problèmes. Là. Ça, c'est pas comme...
Je me disais. Si du jour au lendemain, on arrête de leur livrer, là, on met ça dans un entrepôt pendant un mois.
Pendant ce temps-là, les entreprises qui ont produit cet aluminium-là, là, ils vont vouloir être dédommagés.
Oui, mais c'est là que le gouvernement intervient. C'est ma façon de voir les choses.
Il y avait toutes sortes de choses qui sont possibles. On pourrait mettre des contre-tarifs sur notre propre aluminium pour obliger les Américains à payer non seulement leurs propres tarifs, mais des tarifs d'exportation canadiens sur l'aluminium canadien. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont envisageables, mais encore une fois, faut espérer que le bon sens revienne et que M. Trump recule comme il l'a fait à plusieurs reprises, comme il l'a fait avec les Européens, comme il l'a fait aussi pour l'ensemble des tarifs qu'il avait annoncés le 2 avril, le supposé jour de la libération. Le seul problème, c'est qu'actuellement, tout le monde s'aperçoit que Trump, il avance des choses, puis il recule tout de suite.
Oui, mais c'est le phénomène taco, hein?
Oui, justement, c'est ça, taco, c'est Trump, en tout cas, ça veut dire, en d'autres termes, Trump, il lâche dès le premier coup, là, c'est chicken out, je me rappelle plus exactement. En tout cas, c'est Trump at chicken out, ça veut dire, il lâche tout de suite. Alors là, probablement que ça l'a piqué au vif, et puis là, ben, il va peut-être être plus difficile à convaincre que c'est une mauvaise affaire. Mais de toute façon, je suis convaincu que les entreprises américaines font leur lobby actuellement parce que ça va leur coûter plus cher de toute façon, peu importe ce qui va se produire, si les tarifs s'imposent, et ça veut dire des pertes d'emplois aux États-Unis. Là. En 2018, quand il y avait eu la première guerre commerciale... le premier épisode, il y avait quand même 75 000 pertes d'emplois nettes aux États-Unis dans la sidérurgie. Alors et dans les industries qui sont connexes à la sidérurgie, c'est-à-dire qui ont besoin d'acier. Alors je pense que du côté américain, il doit y avoir beaucoup de monde qui s'active actuellement pour essayer de faire entendre raison à M. Trump. Il y a aussi ses problèmes avec les tribunaux là, dans presque tous les cas, il a perdu. Et c'est sûr que le tribunal du commerce international a donné raison à ceux qui considèrent que Trump s'est trompé en imposant des tarifs qui n'avaient pas la juridiction nécessaire. Ça a été renversé par une cour, mais de façon temporaire. Alors, il est loin d'être sûr que ça va durer très longtemps, là, sa capacité à imposer des droits de douane comme ça. Mais
pour être précis, Pierre, c'est Trump always chicken out.
OK, OK. Je savais que je me rappelais.
Ah, c'est always.
Chicken out, là, je m'en rappelais.
Et là, si vous avez un petit...
Dans tous les cas, ça crée de l'incertitude, puis c'est mauvais pour l'économie canadienne et l'économie américaine, puis globalement pour l'ensemble de l'économie mondiale. Alors, c'est à ne rien comprendre.
Si vous avez un vieux 2 piastres à mettre mercredi, il recule ou il va de l'avant?
Ben moi, je pense qu'il va aller de l'avant, malheureusement, à cause justement de ce taco. Et d'ailleurs, le journaliste qui a inventé cette expression-là, je sais pas si vous avez vu ça dans les journaux, il dit « Je m'en voudrais tellement d'être responsable à cause de cette expression-là, d'une récession mondiale.
» Et d'une diminution chez Taco Bell.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, on va voir, mais je pense qu'il a été froissé dans son orgueil, puis on sait que Trump, c'est un homme extrêmement orgueilleux, un peu même contre le bon sens.
Oui, enfantin.
Oui, enfantin, contre le bon sens. Ouais. Alors, mais encore une fois, jusqu'à présent, il a toujours reculé dans ses menaces. Alors, on verra. On a jusqu'à mercredi là, pour se faire une idée.
Ce qui n'est pas votre cas. Je pense pas que vous soyez un taco.
Non. Merci. Moi, j'imposerais pas des tarifs comme ça. Je trouve que ça fait vraiment, c'est complètement dépassé comme stratégie industrielle.
Merci beaucoup, Pierre Paquette.
Merci à toi. Bye.
Lanaudière PM, météo.
On vous a gardé un petit dessert pour la fin. La météo, ben on le sait, n'est pas de tout repos pour certains commerces saisonniers. C'est le cas des pépinières et j'ai eu le plaisir plus tôt cet après-midi de m'entretenir avec le propriétaire de la pépinière Montcalm à Saint-Jacques, le sympathique Guy Dupuis, communément surnommé Gus. Alors, on va écouter ça. On parle à Guy Dupuis, communément appelé Gus. Tout le monde le connaît là-bas, à la pépinière Montcalm de Saint-Jacques. Écoutez, Monsieur Dupuis, le temps maussade, ça fait 4 fins de semaine consécutives, 4 samedis qui fait mauvais. C'est pas bon pour vos affaires, ça?
C'est pas trop bon pour nos affaires parce que, comment je te dirais ça, la pluie puis le froid, ça nous a pas aidé beaucoup. On a manqué notre fin de semaine de l'or. On a manqué la fête des mères. Fait que l'impact, il y a une grosse impact dans le mois de mai.
Mais j'imagine, et ça reviendra pas, ça, c'est de l'argent perdu, ça.
Si je me fie à mon mois de mai de l'année passée, puis cette année, ça finissait le mois de mai samedi, ça reviendra pas, c'est à peu près sûr. On va aller en chercher peut-être bien 10-15%, mais pas plus.
Mais vous, là, quand vous préparez vos inventaires, quand vous faites vos commandes, là, est-ce que vous avez des pertes quand il y a moins de ventes? Comment ça fonctionne?
C'est facile. On a des pertes, puis on loue un container, puis on les jette. Quand tu veux, on a de la perte, mais on n'aura pas le choix. Là.
C'est un peu à la grâce de Dieu, comme dirait l'autre.
Oui, mais moi, je crois qu'il faut avoir confiance. Le mois de juin s'annonce beau. Si on est capable de faire le mois de mai, les 4 semaines, on va se reprendre là. Mais de là à aller faire comme on a fait l'année passée, là, oublie ça, là. Le mois de mai, j'espère que... puis si je regarde la météo samedi prochain, je pense qu'il annonce encore cette semaine d'appui. Fait que ça l'aide pas ben.
Et là, c'est encore le temps de planter, là. On est dans le bon temps.
Oui, ben c'est ça. Là, ce que je dirais au monde, là, s'ils font des jardins, planter des fleurs, c'est le temps. Je regardais la météo pour les 4 jours qui s'en viennent. Il n'y a plus de gel en vue. Puis la nouvelle lune est le 11 de juin. Fait que là, je crois plus qu'il va faire froid, là. Ça veut dire, à un moment donné, il va avoir un été, c'est comme rien.
On vous le souhaite, Gus, parce que vous avez tellement des belles fleurs puis des beaux plants de légumes, là. Il faut planter ça.
Ben oui, je dis au monde, ça c'est chez nous, ça c'est partout, qui encourage tous les centres de jardin le plus. Parce que, écoutez, là, on va en acheter moins. Puis, quand tu veux, ça va nous aider à booker, comme on dit.
Faites-vous des bons spéciaux?
Je peux pas faire de spéciaux en ce moment, là. Ça va venir, mais pas là.
OK, un peu plus tard dans la saison.
Oui, ça va aller bien, là, je te dirais, là, à la Saint-Jean-Baptiste, là, peut-être et tout. Parce que si on frappe un bon 15 jours de vente, on va être pas mal vide.
C'est quoi qui est pas mal en mode, là, chez vous, présentement?
Moi, j'ai me dire, franchement, c'est un peu de tout, là. Si je regarde le de ce temps-ci, c'est beaucoup le légume, les fruitiers, après ça, que je te dirais, les paniers de fleurs suspendus.
Ah oui,
ça va bien, on n'a pas de problème avec ça.
Et puis là, que vous avez un peu manqué la fête des mères, mais la fête des pères qui s'en vient, c'est pas défendu de donner des paniers de fleurs aux pères?
C'est pas défendu, mais la plupart du temps, des fois, nous autres, quand ce qu'on va vendre, c'est des arbres.
OK, OK, OK. Fait que,
puis, c'est pas défendu de donner des paniers de fleurs. C'est ça, c'est sûr.
Mais oui, écoutez, on peut avoir le cœur sensible, même si on est un mâle, là, quand même.
Ben oui. Écoute, un petit panier de fleurs, là, avec une bonne bière froide, ça c'est numéro un.
Écoutez, on va vous souhaiter, Guy Dupuis, la meilleure des chances pour cette saison. Vous ne l'avez pas facile cette année avec la température, et on va souhaiter que la météo soit de votre côté un petit peu, là.
Bon, ben, je te remercie, Michel, puis on va souhaiter qu'il fasse beau, puis je dis aux gens d'aller dans les centres de jardin. On est prêts encore, on a du stock, soyez pas inquiets.
Parfait, merci.
OK, bye-bye. Je retourne dans mes serres arrosées.
OK. Alors, ma bière froide est presque prête, il me manque juste le petit panier de fleurs. Alors, voilà. Écoutez, j'aimerais vous parler un peu... c'est aujourd'hui que le plus vieux détaillant au pays a fermé officiellement ses portes. Les derniers magasins de la baie encore ouverts, dont celui de Centreville à Montréal, on ferme définitivement leurs portes en fin de journée. C'est une époque qui se termine. Moi, je me souviens, j'allais voir là les décorations de Noël dans les vitrines. J'allais voir le Père Noël à ce magasin-là dans ma tendre jeunesse, puisque j'étais Montréalais. Je suis né à Montréal et j'ai passé tout mon enfance là pour par la suite me diriger vers la Naudière. Le site web du détaillant est d'ailleurs déjà inaccessible de la baie. Un message qui remercie la clientèle et indique qu'il est temps de lui dire au revoir et après, tenez-vous bien, après 355 ans d'affiches. C'est un petit pincement au cœur, je me dis. C'est la baie. Bon, il y en a qui pour dire que la baie du Tson, ça a exploité bien des gens au cours de l'histoire, surtout dans leur début, là, dans l'époque de la traite des fourrures. Je vous dis que ça jouait rough dans le bout, mais la marque a été créée en 1670 et a déclaré faillite plus tôt cette année en raison des dettes de plus, tenez-vous bien, de 1 milliard de dollars. Il y a quand même 8000 personnes qui ont perdu leur emploi dans l'exercice. Alors, je voulais vous en glisser un mot parce que il y en a pour qui... Moi, je sais qu'en région, ici, on achetait par catalogue, hein, nos mères. Moi, j'ai vu ma mère aller faire des commandes puis aller chercher ça à un bureau de poste ou à un endroit, là, il y avait un point de dépôt puis on commandait jusqu'à même des vélos, imaginez-vous, toutes sortes de trucs là, pour la maison avec le catalogue. La Bible qui arrivait, je pense, autour du début novembre, là, on magasinait nos cadeaux de Noël là-dedans. On les avait jamais à Noël, finalement, mais quand même. Bon, il y a la mairesse de Montréal. Pourquoi j'en parle? Parce qu'elle va rendre hommage demain à Jeannette Bertrand pour ses contributions à la vie culturelle de la métropole et finalement de tout le Québec. Madame Bertrand a marqué sa génération et les suivantes, et on vise à honorer sa contribution remarquable au développement et au rayonnement de la ville en tant que pionnière culturelle et féministe. Grâce à cette dame, il y a beaucoup de dossiers qui ont évolué et je pense que il y a bien des hommes et des femmes qui lui doivent beaucoup. Premier ministre François Legault, qui n'a pas l'intention de déployer d'efforts particuliers pour attirer un promoteur privé qui pourrait présenter un projet d'oléoduc. On en a parlé un peu plus tôt avec le chef Siby Flamand. La question de construire un oléoduc au nom de l'unité nationale était sur toutes les lèvres aujourd'hui, alors que s'amorçait la rencontre des premiers ministres à Saskatchewan. Et écoutez, ce serait un dossier à suivre parce que, bon, l'acceptation sociale est un peu plus là qu'elle n'était, mais il reste qu'il y a des considérations environnementales dans le dossier et je pense qu'on devra entamer les discussions avec les Premières Nations si on veut que ça passe au Nord. J'aimerais remercier les gens qui ont participé à l'émission aujourd'hui.
Il y avait Patricia Rivet, présidente du conseil central CSN de Lanaudière. On a parlé à Héloïse Cossette, porte-parole régionale de la Sûreté du Québec. Antoine Carabinier, cofondateur Sécalfonce. Jean-Sébastien Martin, du Centre culturel Desjardins. On a eu notre chef Sibi Flamand, on en a parlé il y a un instant. Pierre Paquette. Je remercie également François Morin, Régent Turgeon, Nicolas Bellemare, Claude Fournel, Marie-Pierre Beauparlant, pour l'entrevue avec le cirque. Et ici Michel Arnois qui vous donne rendez-vous demain.